La France n'en est plus à un paradoxe près. À la fois pays aux régions, au climat, aux coutumes multiples qui font son attractivité, et à la fois hexagone en recherche constante d'identité nationale au singulier. Alors que le débat sur ce qu'est être français ressurgit régulièrement sur le devant de la scène médiatico-politique, au gré des migrations, désirées ou non, un autre critère, plus fin, plus intime, plus inattendu, fait surface, la langue. La langue comme marqueur d'identité, comme marqueur social. Nous nous pensons capables d'identifier l'origine géographique, culturelle et sociale d'un interlocuteur rien qu'en l'écoutant parler. Un accent du Midi qui nous fait sourire, une intonation bretonne qui renvoie à certains de nos ancêtres ici à Rennes, ou bien un accent dit des banlieues. Un handicap pour celles et ceux qui le portent, c'est ce que notre invité nomme la glottophobie. Ou quand une manière de parler et des expressions qui ne correspondent pas à la prononciation standardisée parisienne deviennent un motif d'exclusion dans la vie quotidienne. Discrimination, combattre la glottophobie, c'est tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans Chercheurs en ville. Discrimination, combattre la glottophobie, c'est le titre de votre ouvrage. Philippe Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sociolinguistique à l'université Rennes 2. Vous répondrez aux questions de Xavier de Bontride. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Et Christian Lebart pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Xavier, c'est à vous.
Merci beaucoup. Alors effectivement, Philippe Blanchet, on est heureux de vous avoir derrière ce micro aujourd'hui pour nous parler de ce terme que vous avez forger la glottophobie. On est à la fois heureux et un peu inquiet quand même, parce qu'on se dit que vous allez forcément passer au tamis de votre expertise les différentes intonations que les uns et les autres pourront prendre pour vous poser des questions. Alors comment et d'où parlons-nous? C'est le sujet qui va nous réunir, puisque la glottophobie, c'est le titre de votre ouvrage, c'est surtout une manière de considérer que la manière dont on parle peut être un facteur de discrimination. Ça nécessite des explications et vous êtes là justement pour nous les donner. Alors, la glottophobie, qu'est-ce que c'est?
Alors d'abord, je crois que ça peut aider. Je vais partir du moule à partir duquel j'ai forgé le terme, comme vous venez de dire. Je l'ai forgé sur le modèle de homophobie, xénophobie, islamophobie, judéophobie, avec l'idée qu'il s'agit de nommer les discriminations que subissent des personnes en utilisant comme prétexte le préfixe du phobie. Donc on peut avoir comme prétexte qu'ils sont étrangers, c'est la xénophobie, ou on peut avoir le prétexte de ce que ces gens parlent, et donc ce serait glottophobie, avec glotto, comme on l'a dans polyglotte, pour dire de quelqu'un qui parle plusieurs langues. L'idée, c'était de trouver un mot nouveau pour déplacer le problème. On avait jusque-là une expression qui était très fréquemment utilisée, en tout cas par les gens qui s'intéressaient à la question, qui était l'expression discrimination linguistique. Mais le problème...
Ça fait savant, ça, un
alors,
peu.
Alors, hein. Voilà, déjà, bon, dès que vous dites linguistique, ça fait savant. Linguistique, ça fait un peu peur aux gens. Mais surtout, ça laisse à penser que les discriminations portent sur les langues. Or, l'idée, ça a été de déplacer le problème, de sortir le problème du champ linguistique et de le déplacer dans le champ sociopolitique. Et donc de montrer, et c'est en grande partie le but de l'ouvrage, que ça porte sur les personnes, c'est les personnes qui sont discriminées, et que les éléments linguistiques sont un prétexte pour les discriminer.
Alors Philippe Blanchet, pour qu'on comprenne bien, c'est finalement la manière dont on parle une langue, dont on la prononce, qui va permettre d'être ainsi classé, voire discriminé. C'est ça le sens de votre analyse?
Oui, mais c'est plus vaste que ça. C'est tout ce qu'on parle. Alors ça peut être le fait de parler une langue et pas une autre. On peut être discriminé parce qu'on s'exprime dans une langue qui fait l'objet d'un refus, d'un rejet, d'un mépris de la part d'une collectivité ou d'un individu. Et on peut aussi s'exprimer dans une langue qui en tant que telle est acceptée, mais d'une façon qui n'est pas acceptée. Donc c'est à la fois toutes les langues et les façons de parler toutes ces langues.
Alors, maintenant que la définition est bien posée, Christian Lebart de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, on va aller plus loin avec vous.
Oui, alors c'est un objet absolument passionnant parce que c'est un objet très transversal aux sciences sociales. Bon, on sait bien qu'il y a dans l'histoire française une discrimination liée à la langue. Évidemment, les gens qui ne parlaient pas français, en particulier après la Révolution française, ont été ont été violemment marginalisés, sanctionnés, et en Bretagne, on le sait aussi bien qu'ailleurs, mieux qu'ailleurs. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de déplacement, parce qu'on affine en quelque sorte la lecture en termes de discrimination, puisque c'est plus l'usage d'une langue, mais c'est la façon dont on s'en sert pour s'exprimer. Et évidemment, ça pose une question de sciences sociales assez fondamentale, qui est la question de la preuve. Comment on fait pour, empiriquement pour démontrer qu'il y a une discrimination liée à la façon dont on fait usage d'une langue?
Alors ça peut être explicite, hein, donc l'idée, du coup, ça invite à définir aussi ce qu'on appelle une discrimination, du coup. Hein.
Et ça invite aussi peut-être, Philippe Blanchet, à définir ce qu'est l'étalon par rapport auquel on va mesurer l'exactitude de la langue ou de la prononciation. Il y aurait un modèle alors, pur parmi les purs.
Bah, le simple fait de poser un étalon, c'est déjà un processus de discrimination. Mais je reviens à la notion de discrimination. L'idée, c'est que on considère comme une discrimination négative, donc, hein, le fait de traiter différemment des personnes en utilisant un critère de différenciation qui n'est pas admissible, qui n'est pas légitime. C'est d'ailleurs comme ça que c'est défini juridiquement, par la loi française comme par un ensemble de lois internationales. Donc comment on fait ? Bon, on voit qu'il y a deux personnes qui sont dans la même situation, et il y en a une des deux qui se voit refuser l'accès, par exemple, à certains droits ou à certaines ressources économiques, culturelles, éducatives, etc., au motif explicite ou plus implicite, mais il y a des traces dans les discours et dans les comportements qui peuvent permettre de le déceler, mais souvent au motif explicite que, voilà, si vous parlez cette langue-là ou à la façon dont vous parlez, par exemple, le français, vous pouvez pas, par exemple, alors j'ai plein d'exemples, j'ai plein de témoignages, hein, quelqu'un qui passe le concours pour être professeur de français, le CAPES de lettres, hein, à qui on dit au moment de l'oral, avec l'accent que vous avez, vous pouvez pas enseigner le français. Ça, c'est clairement, explicitement de la discrimination avec un prétexte linguistique, puisque par ailleurs, c'est illégitime pour deux raisons. D'abord parce que les discriminations linguistiques sont identifiées comme étant des discriminations par la plupart des textes internationaux de protection des droits humains, déjà, même si ce n'est pas le cas dans la loi française pour l'instant en tout cas. Et puis par ailleurs, parce que si on regarde quelle est la mission que va accomplir la personne derrière, le fait qu'elle prononce le français d'une façon ou d'une autre change rien à sa capacité à remplir cette mission. Donc là, on peut établir d'une façon assez claire, il me semble, qu'il y a un processus de glottophobie, que la personne est discriminée.
Hey, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis « Putain, mais je comprends rien ce qu'il dit, lui !» C'est parce que t'es post-timi. Et si t'es post-timi, ben regarde bien cette vidéo parce que ça te concerne quand même. Hein ? Fais gaffe parce que tu vas te prendre une belle tête, Guy, hein ?
Comme tu as pu le remarquer à ce magnifique accent, je viens du Nord, je suis ch'ti.
Et dans la tête de beaucoup de monde, un ch'ti, c'est quelqu'un qui fait du tuning, qui ne travaille pas, qui s'engueule tout le temps avec sa femme, qui boit énormément d'alcool et qui parle comme ça, là, t'as la tête gif, là, donne-moi ma Coca-Cola.
Alors, on a évidemment tous un accent pour l'autre, d'une certaine manière. Oui. Vous n'avez pas la même manière de prononcer que moi, et ça s'explique par aussi des trajectoires, des parcours. Mais qui dit la loi, finalement, là-dedans ? Ou plutôt, qui fixe l'étalon ? Je reprends cette expression que je viens d'utiliser. Est-ce qu'il y a un modèle national parisien ? On a souvent ça en tête, qui s'impose, jacobiniste, qui fait que, voilà, on doit parler comme ça parce que les élites s'expriment ainsi ?
Alors, qui fixe la loi ? D'abord, ça dépend des communautés, à la fois linguistique, sociale et éventuellement étatique ou nationale. Hein. Faut pas oublier que pour la plupart des langues du monde, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'étalon, il n'y a pas de normes, on parle comme on veut et ça passe très bien. C'est rare les langues dans lesquelles il y a un système de normalisation avec l'élaboration d'un standard. Alors qui fixe la loi ? Prenons l'exemple français, c'est celui qui est le plus proche de nous. Historiquement, on voit très bien comment ça s'est fait. Hein. Le français a commencé à être élaboré à l'écrit à partir du XVIe siècle, donc par une toute petite partie qui était une élite au moins intellectuel, mais aussi politique, parce que c'était pour la plupart des aristocrates ou des gens qui étaient autour des sphères du pouvoir de l'aristocratie, puisqu'on était dans un système monarchique. À partir du XVIIe, c'est la mise en place par l'État royal, monarchique, d'un organisme qui a pour mission de censurer les textes et la langue et qui s'appelle l'Académie française. Et il a clairement une mission de censure. Et les gens qui y sont nommés sont des gens qui sont très proches du pouvoir, qui dépendent du pouvoir, qui en général font partie de la même classe dominante et qui décident explicitement, parce que là aussi on en a la trace écrite, on a les témoignages, d'élaborer une norme du français qui soit la plus éloignée possible des pratiques populaires. Hein, donc on a par exemple un grammairien qui dit qu'il va falloir se baser sur le français parlé par les parties les plus saines de la cour, ce qui veut dire
c'est
que
un
dans
choix
la
politique
cour,
là pour le coup.
Bah, évidemment, c'est à dire que dans la cour il y avait déjà des parties qui étaient linguistiquement malsaines, et par exemple au moment de fixer progressivement l'orthographe du français, on a un autre témoignage qui parle bien, donc je le cite souvent, c'est un des académiciens qui consigne dans ses textes que il va falloir élaborer une orthographe qui permettra de distinguer, le mot de distinction est important, hein, les gens lettrés, des ignorants et des simples femmes. Donc c'est clairement un processus politique, et donc qui fixe la loi, les classes dominantes, pour pouvoir établir au fond un filtre d'accès au pouvoir.
Donc les choses trappes de notre grammaire et de notre orthographe ne sont pas là par hasard.
Absolument, elles ne sont pas là par hasard. Il y en a qui sont des erreurs énormes, mais en même temps qui relèvent d'un processus qui lui est pas là par hasard. Le fait, par exemple, qu'il y ait énormément de lettres étymologiques latines ou grecques dans l'orthographe du français, c'est fait exprès pour empêcher les gens d'apprendre à écrire et à lire facilement. Mais évidemment, il y en a qui sont là par hasard parce qu'ils se sont trompés. Par exemple, le D de poids, le poids qu'on pèse, c'est une erreur d'étymologie. Il n'y a pas de D dans le mot latin de départ, ils ont confondu avec un autre mot. Donc il y en a qui sont là par hasard. Mais le fait de chercher à mettre des lettres latines en plus pour embêter les gens qui ne savent pas le latin, pour qu'ils aient du mal à apprendre à écrire et à lire le français, ça c'est pas par hasard. C'est un choix politique délibéré.
Et c'est pervers. Christian Lebart, une question.
Oui, je voudrais revenir sur l'opposition que vous faites dans le livre, qui est très, très intéressante et qui, encore une fois, est très transversale aux sciences sociales, entre domination et hégémonie. Parce que ce qui est très pervers, si on veut raisonner un peu comme le ferait Pierre Bourdieu, que vous citez d'ailleurs beaucoup, ce qui est très pervers dans cette histoire, c'est que, en tout cas dans la France d'aujourd'hui, la police de la langue est une police un peu invisible. C'est-à-dire c'est plus de l'ordre du rappel à l'ordre dans des micro-interactions qui peuvent être un jury de concours, un entretien d'embauche, voire l'arme de la moquerie dans les conversations ordinaires, dans l'accent du midi, etc., etc., que d'une véritable police avec le droit, même si vous êtes aussi très attentif à ça c'est très intéressant, la dimension juridique quand même du statut de la langue. Alors que qu'en est-il entre les macro-dispositifs type le droit et puis les micro-interactions, où est-ce qu'on peut situer l'hégémonie alors ?
Alors, l'hégémonie est un concept que j'utilise avec un sens particulier, qui n'est pas son sens ordinaire, qui est le sens que lui a donné Antonio Gramsci en philosophie politique, qui définit l'hégémonie de la façon suivante, et pour faire court, il dit une hégémonie, c'est une domination consentie. C'est-à-dire, on a réussi à convaincre les gens par un processus qui passe notamment par l'éducation, on a réussi à convaincre les gens que la domination qu'ils subissent est normale, qu'elle est logique, que personne ne peut la remettre en question parce qu'il n'y a pas d'alternative à cette organisation sociale dans laquelle il y a des dominants et des dominés. Et donc les gens étant convaincus que la domination qu'ils subissent est une domination juste, ils ne la remettent pas en question, tandis que quand ils ont conscience que c'est une domination et non pas une hégémonie, ils ont donc conscience de la subir, ils y adhèrent pas et donc ils peuvent évidemment la contester. Ils peuvent voilà. Tandis que la domination linguistique en France, elle est devenue hégémonique parce que tout le monde a été convaincu en quelques générations d'éducation, dite nationale, et c'est pas pour rien d'ailleurs, que il y avait une sacralité de la langue, un modèle de la langue qui s'imposait en lui-même et pour lui-même, qui était naturalisé, qui était absolument pas à remettre en question. Et donc chacun devient un acteur de la politique linguistique.
Et la stigmatisation, par exemple, des accents régionaux, est-ce que c'est une singularité française ou est-ce que, on sait bien qu'en Angleterre, par exemple, il y a aussi cette distinction entre le bon accent d'Oxford et puis les autres façons de parler anglais. Donc, quelle est la part de singularité ? On a quand même l'impression que la France a un rapport un peu hystérique à sa langue.
C'est ça, la différence entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou dans d'autres grandes sphères linguistiques internationales comme l'anglophonie. Par rapport à la francophonie, par exemple, la différence c'est qu'en France, on est à un degré beaucoup plus élevé et qu'on pourrait éventuellement qualifier d'hystérie, moi je veux bien. Il y a ça ailleurs, enfin, il ne faudrait pas croire non plus qu'il n'y a qu'en France qu'il y a un rapport hyper normatif, sélectif et donc glottophobe à la langue et aux langues, mais il y a quasiment qu'en France qu'il a atteint un tel degré, c'est-à-dire un degré où non seulement les autres langues de France ont été plus que marginalisées, délégitimées, au point par exemple qu'on s'offusque quand le président de l'Assemblée territoriale de Corse, qui est élu sur un programme nationaliste et indépendantiste et autonomiste, prend la parole 3 minutes en Corse pour ouvrir la cérémonie qui a duré 2 heures. Il n'y a qu'en France qu'il y a des gens qui s'offusquent et qui ne comprennent pas qu'on dise mais c'est son droit. Voilà. Et puis il n'y a qu'en France aussi qu'on a poussé le culte de la norme standard de la langue officielle au point que tout le monde devient un policier de la langue et qu'effectivement, même dans une conversation entre amis, il y a des gens qui vont rire de la façon dont parle une autre personne.
Alors, qui sont les vecteurs, Philippe Blanchet, finalement, de cette normalisation? Vous avez cité l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans ce jeu-là? Et on pense évidemment aux médias. Oui, les médias radio et télé.
Oui, bien sûr, les médias. Alors, d'abord, ça a été les médias écrits, il ne faut pas oublier. Hein. Il y a une époque où la presse écrite était extrêmement diffusée en France, notamment à partir du 19e, c'est-à-dire au moment où on francise les Français. Et donc, où la presse a servi à la fois de modèle et d'exemple. C'est-à-dire de modèle, les gens disaient, mais finalement, il n'y a qu'en français qu'on peut écrire, les autres langues n'étaient pas utilisées, et ce n'était pas possible de les utiliser pour parler, par exemple, de l'actualité politique. Or, on aurait parfaitement pu le faire, bien sûr. Parce que, par ailleurs, les gens le faisaient entre eux. Hein. Et en même temps, ça a servi d'exemple, parce que ça a véhiculé une certaine norme du français. Ce n'est pas toutes les façons d'écrire, de parler le français qui étaient possibles, c'est une certaine. Puis ensuite, évidemment, avec le média audio qui a d'abord été la radio, qui a très vite été normalisé sur le plan linguistique, par exemple, non seulement de la prononciation, mais aussi des formes grammaticales, du lexique, etc. Et puis avec l'explosion des médias audiovisuels à partir des années 60 à peu près, hein, là on a un phénomène de standardisation de la parole publique qui devient absolument massif et qui va conforter, en gros, il y a une espèce de connexion entre ce qui se fait à l'école, ce qui se fait dans les médias, ce qui se fait dans la littérature, les discours sur la langue que tiennent les gens, les dictionnaires, etc. Tout converge pour construire ce modèle, cet étalon, justement, sacré, hein, auquel personne n'a le droit de déroger.
Tout allait bien quand, tout à coup, le ciel s'est assombri. C'est alors que des trombes d'eau s'abattirent sur la Nouvelle-Orléans. La pluie dura 40 jours et 40 nuits. Référence biblique, t'as vu. De nombreuses digues cédèrent et la place dans les arches vint à manquer. Une famille de la Nouvelle-Orléans s'est confiée à la caméra.
Est-ce que c'est pas paradoxal, justement, que à l'heure où la multiplication des médias, et notamment audiovisuels, apparaît, qu'il n'y ait pas eu de la place pour une forme de diversité dans l'expression? Non, cette multiplication s'est accompagnée d'une standardisation renforcée.
Oui, alors il y a eu de la place, hein, quand il y a eu, par exemple, l'ouverture des radios qu'on a appelées les radios libres au début,
des années 80.
Première période mitterrandienne. Il y a eu effectivement plein de radios locales qui se sont créées, soit en langue régionale, soit en langue d'origine immigrée. Hein. Il y a par exemple, longtemps eu à Marseille, une radio, je ne sais pas si elle existe encore, une radio en italien. Parce qu'à Marseille, il y a beaucoup
forte.
De gens d'origine italienne, presque tous les Marseillais le sont, moi aussi d'ailleurs. Hein. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis il y a eu des pratiques de français populaire, etc. Et puis très vite, ça s'est normalisé pour deux raisons. La première, ça, c'était marginal. Et dès que ça a marché, le grand capital a sauté dessus pour le racheter. Et donc, l'ayant racheté, il a mis ses normes, et ses normes de grande diffusion. La deuxième chose, c'est que il y a quelque si ça se professionnalise, il ne faut pas oublier qu'en amont de la professionnalisation, il y a la formation professionnelle des journalistes. Et toutes les études que je connais et tous les journalistes que j'ai rencontrés, y compris tous ceux qui m'ont interviewé depuis que le livre est sorti, m'ont tous confirmé que dans les écoles de journalisme, on leur impose, tout comme dans les écoles de théâtre, par exemple, ou de cinéma, une norme extrêmement stricte en leur disant, c'est simple, si tu continues à parler ton français à toi, local, social, etc., tu seras cantonné à la presse écrite parce qu'il n'est pas question que tu puisses prendre la parole sur un média audiovisuel en ayant l'accent picard.
Il y a quelques contre-exemples célèbres quand même. On pense à Jean-Michel Apathy,
ouais,
par
bien
exemple.
Sûr, mais c'est
toujours le même concept.
C'est toujours le même concept parce que c'est un apax, parce que c'est presque un alibi. Il y en a un. D'ailleurs, lui-même, quand mon livre est sorti, il a fait une émission aussitôt là-dessus à l'heure de grande écoute à midi, et il a conclu son propos sur mon livre en disant Morocon, ce qui prouve qu'il est très conscient de la chose, mais il est très bien conscient. Il y a d'ailleurs des interviews de lui. Il est très bien conscient qu'il est vraiment un cas à part. Que lui, il a eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont laissé puis qui ont joué là-dessus, etc. Mais il y en a plein d'autres.
C'est presque un produit marketing, d'une certaine manière.
Oui, enfin, en tout cas pas lui, mais peut-être qu'il a été instrumentalisé comme ça c'est clair. Oui.
Christian Lebart.
Alors peut-être pour exprimer un peu un désaccord ou pour prolonger le débat, est-ce qu'on peut vraiment mettre sur le même plan le fait de parler des langues différentes dans l'espace public et le fait de s'approprier d'une façon particulière la langue je reprends l'utilisation de le terme de langue commune que vous citiez dans le livre, qui est une expression extrêmement intéressante. Et voilà, est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est pas des choses quand même assez différentes? Ou pour le dire autrement, moi je fais partie des gens qui ont été choqués sur l'affaire Corse, là, autour de l'idée que, voilà, la République n'a-t-elle pas besoin d'une langue? Ou en tout cas, voilà, la communauté nationale n'a-t-elle pas besoin de se retrouver aussi autour de, non pas de normes linguistiques fétichisées à l'extrême qui seraient des marqueurs de classe, mais autour d'un langage commun. Et pour qu'il y ait un espace public, il faut que ce soit aussi un espace d'échange linguistique.
L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une langue partagée par tout le monde et puis des langues qui sont des langues plus spécifiques à certains groupes de gens. Bien sûr. Quand on est président de l'Assemblée territoriale de Corse, exprimé en Corse, pour des élus qui représentent la population corse, ça a du sens. Et puis par ailleurs, je comprends qu'il y ait des Français qui soient choqués par ça, parce qu'ils sont victimes de cette hégémonie, mais il suffit qu'on leur fasse lire la Convention de protection des droits fondamentaux européenne, la Convention des droits de l'enfant ou le Pacte des droits civils de New York, et ils verront que c'est une discrimination aussi grave, elle est exactement considérée au même titre que de discriminer quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau. Est-ce qu'on trouverait scandaleux que quelqu'un prenne la parole en tant que président d'une assemblée territoriale parce qu'il est noir ? On trouverait ça choquant. Ben, qu'ils prennent la parole en Corse, ça relève exactement du même type de procédé et le rejet du même type de discrimination.
Alors, on vous entend, Philippe Blanchet, avec une forme d'indignation dans la voix. Et là, tout d'un coup, votre accent, il s'entend lui aussi davantage. Est-ce qu'il n'y a pas forme de corrélation, justement, entre une identité qui s'exprimerait, y compris dans, lorsque l'on est passionné, ben voilà, la vraie nature reprend le dessus?
Alors, je ne dirais pas vraie nature, parce que je crois qu'il n'y a rien de naturel dans ce qui est linguistique chez les humains, c'est du culturel. Hein. C'est acquis, ce n'est pas inné. Mais c'est vrai que selon ce dont on parle, la forme linguistique est liée au contenu, bien sûr. Et donc, comme tous les humains ont la capacité à une pluralité de formes, c'est spontané chez les humains, aussi bien à l'intérieur d'une même langue qu'en étant, en parlant plusieurs langues. Il ne faut pas oublier que les humains sont spontanément plurilingues. Hein. Quand ils sont monolingues, c'est qu'on les a empêchés d'être plurilingues. Ben, du coup, évidemment, selon ce dont on parle, on va choisir les formes linguistiques qui vont compléter le sens du propos, sa tonalité, y compris, par exemple, lui ajouter une tonalité affective ou quelque chose de l'ordre de l'indignation. Oui, bien sûr, c'est une ressource, ça.
Une question que je partage, je crois, avec Christian Lebart et qu'on avait envie de vous poser tous les deux, concerne la manière dont vous travaillez sur ces questions-là. Oui. Parce que sociolinguistique, on l'a rappelé au début de cette émission, c'est la discipline dans laquelle vous exercez, on a peut-être un peu de mal à savoir quels sont les outillages que vous utilisez, la méthodologie que vous convoquez pour vos travaux, pour écrire votre livre, pour enquêter aussi. Si on pouvait prendre quelques instants pour que vous nous expliquiez peut-être un petit peu les secrets de fabrication, ou en tout cas la démarche qui est la vôtre, je suis sûr que ça nous intéresserait et ça intéresserait nos auditeurs.
Alors, d'abord, on peut partir de ce que signifie sociolinguistique et pourquoi ce terme a été inventé au cours des années 60-70. Hein. C'était pour contester la linguistique non-socio, justement, qui était la linguistique structurale précédente. Donc, l'idée, c'est... disons qu'il y a une conviction de départ qui est les pratiques linguistiques doivent être considérées comme des pratiques sociales. Pas comme un code mathématique qui pourrait être étudié en lui-même et pour lui-même en le décontextualisant du monde humain et social, mais au contraire, comme étant produit par le monde humain et social, qu'à son tour il contribue à produire en boucle. Hein. Bon. Donc, partant de là, ça veut dire qu'on ne peut observer les phénomènes linguistiques à condition d'aller dans le monde humain et social. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des méthodes de terrain, on fait du terrain, hein, tout simplement, comme le font les sociologues ou les ethnologues. On a d'ailleurs des méthodes qui sont très proches, on utilise l'observation participante, on utilise des méthodes par entretien, on utilise des méthodes par questionnaire, on travaille d'une façon très proche des gens qui font de la géographie sociale ou de la sociologie ou de l'ethnologie. Simplement, nous, on est focalisé sur les formes linguistiques que les gens utilisent, en gros, en essayant de voir quelles sont les corrélations entre qui parle quoi, quand, à qui, comment, pourquoi, dans quel contexte, et comment l'ensemble des phénomènes sociaux sont corrélés aux choix linguistiques que font les gens. En gros, c'est ça l'idée.
Christian Lebart.
Et alors, du coup, comment on peut mettre en évidence une situation de discrimination? Est-ce qu'on demande aux victimes de raconter, ou est-ce qu'on observe des interactions qui sont des interactions de
domination ? Alors, les deux, et même davantage encore, parce qu'on peut travailler aussi sur des textes. Hein. Vous avez vu que dans le livre, par exemple, j'analyse y compris des textes juridiques français ou des rapports officiels d'organismes institutionnels français qui ont des façons de nommer les langues ou qui posent des règles linguistiques qui sont clairement discriminantes. Alors, comment on fait ? Ben, effectivement, on observe des interactions et on voit des marques de jugement négatif de la parole de l'autre à cause de la forme de sa parole, pas à cause de son contenu, hein, dans ce cas-là, bien sûr. On demande aux gens de nous raconter. Hein, les gens, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui racontent les moments où ils se sont sentis humiliés à cause de leur façon de parler, aussi bien des élèves dans des classes que, il n'y a pas longtemps, quand je suis passé sur France 3 Bretagne, un ancien gardien de phare racontait la première fois qu'il a été commandé un billet de train pour aller prendre son premier poste et comment le guichetier l'a humilié publiquement en se moquant de sa façon de demander un billet de train. Hein. Voilà, donc les gens racontent leurs humiliations parce qu'ils le vivent de façon très violente, même si l'hégémonie fait qu'on considère que ce n'est pas un problème et qu'on n'en parle pas. Souvent, les gens le racontent de façon très... Enfin, ils l'ont vécu de façon très violente. Et puis, on peut aussi carrément interroger les gens, les faire parler là-dessus en procédant par entretien. Une des choses qu'on fait faire, c'est qu'on pratique ce qu'on appelle la biographie langagière. Donc on demande aux gens de raconter l'histoire de leur vie en langue. Hein. Comment ils ont rencontré des langues, quelles langues, qui parlaient quoi, leurs parents, leurs grands-parents, leurs voisins. Et au fur et à mesure, sortent des choses, y compris souvent des phénomènes comme de ce type-là.
Alors, je ne vais pas relancer notre petit désaccord de tout à l'heure, mais une des différences quand même avec entre la couleur de peau et l'accent, c'est que on peut changer l'un plus facilement que l'autre. Est-ce que vous observez dans les situations d'enquête que les acteurs sociaux sont amenés à avoir des stratégies de réflexivité sur leur propre accent qui les amènent à essayer de se corriger, ou alors soit définitivement, soit ponctuellement à l'occasion d'un échange un peu stratégique type concours, examen, oui. Entretien d'embauche.
Alors
etc.
Il nous répond oui. On va écouter un morceau. Une petite pause musicale et on aura la réponse complète à cette question passionnante juste après. Trash Tongue Talker, c'est Jack White et c'est maintenant.
I got no truck with your woman always coming over when I ain't home. You hand a bug to me, baby, try your luck to try to get in my song. Yeah. Oh, and your mama was a bastard, had your plastered face all over the scene. And you got hassled by your daddy, always pushing, trying to make you come clean.
Right Trash Tongue Talker à l'instant dans Chercheurs en Ville, émission consacrée aujourd'hui à la glottophobie, concept que notre invité, le sociolinguiste Philippe Blanchet, a défini en première partie d'émission. Une discrimination liée à la manière dont on parle, qui est tout droit héritée des politiques du XVIe et XVIIe siècle, lorsque l'État royal décidait d'élaborer une langue française la plus éloignée possible des accents et expressions provinciales populaires. Et depuis, cette glottophobie persiste via les médias ou encore l'école et au sein même de cercles d'amis où la moquerie est vite arrivée dès lors que l'on ne prononce pas un mot entre guillemets correctement. Dans cette deuxième partie, vous entendrez que certains n'hésitent pas à dissimuler cet accent ou bien à l'adapter en fonction de tel ou tel interlocuteur, et ce, que l'on soit un homme politique ou un jeune de banlieue. Nous ferons également en fin d'émission un focus sur la Bretagne. Philippe Blanchet, interrogé par Xavier de Montride et Christian Lebar, c'est tout de suite dans la deuxième partie de Chercheurs en Ville sur Canal B.
Alors Philippe Blanchet, juste avant cette intermède musicale, Christian Lebar vous interrogeait sur la capacité que certains peuvent avoir eh bien, de dissimuler en quelque sorte leur accent ou la manière dont ils s'expriment dans une langue. Il disait quand on ne peut pas facilement changer de couleur de peau, mais en revanche on peut peut-être masquer ou adapter, c'était plutôt ça d'ailleurs la question, adapter la langue à avec celui ou celle à qui l'on s'adresse. Qu'est-ce que vous avez observé en la matière?
Alors, la compétence à communiquer des humains, la compétence à communiquer en langue, elle s'appuie sur deux piliers. Le premier pilier, c'est une capacité d'adaptation au contexte sociolinguistique, donc à essayer de s'exprimer d'une façon la plus proche possible des gens avec lesquels on est. Ce qui fait que, par exemple, quand on change de lieu de vie, on peut changer de langue ou changer de variété d'une même langue. Et puis l'autre capacité, c'est la capacité stratégique, celle qui consiste à utiliser en conscience des ressources linguistiques, y compris inattendues dans la situation, parce qu'on sait qu'elles vont produire des effets. Et on passe notre temps à combiner les deux en fonction de ce qu'on peut faire aussi, de ce dont on dispose comme ressources linguistiques. On n'a pas tous les ressources linguistiques aussi riches, au sens d'être aussi nombreuses les uns que les autres, ou les unes que les autres. Donc évidemment, les gens font ça, bien sûr.
Ça marche ?
Oui, on fait tout ça tout le temps. Je veux dire, comme je dis toujours aux gens qui me parlent de l'orthographe du français, quand vous faites la liste des courses pour partir faire vos achats, vous orthographiez pas de la même façon que quand vous écrivez un texte pour publier dans le journal. On joue tous sur la variation possible de la langue, c'est une ressource. Ça. Donc tout le monde fait ça à des degrés divers. Y compris parfois en changeant de langue. Tous les bilingues ou les plurilingues dont je suis savent que on peut choisir de parler une langue pour pas être compris par des gens de l'environnement. C'est une stratégie pour parler qu'à certains interlocuteurs. Donc voilà, on fait tout ça tout le temps. Après, le problème que ça pose, et pour revenir à la question qui était posée à propos de Talamone et de ma comparaison avec la discrimination à la couleur de la peau, le problème que ça pose, c'est que justement, comme on part du principe que la langue serait un simple outil qui ne serait pas définitoire de qui est la personne, mais simplement un outil de communication, on dit à la personne, t'as qu'à changer d'outil. On considère qu'il y a un outil qui est plus beau, qui est meilleur, qui est plus prestigieux, t'as qu'à prendre un autre outil, jette ta vieille de chevaux pourris et achète une Mercedes. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que on se construit en langue. Les langues sont l'une des caractéristiques de ce qui fait notre humanité et de ce qui fait notre identité individuelle et collective. Et donc, quand on demande à quelqu'un de changer sa façon de parler ou qu'on lui interdit une langue, on lui interdit d'être lui-même. Alors, ça va quasiment aussi loin. Bien sûr que sur la forme, c'est pas la même chose que la couleur des yeux ou des cheveux, parce qu'on peut plus difficilement en changer, bien sûr. Mais ça va aussi loin en termes de négation de qui est la personne qu'un comportement raciste ou xénophobe. C'est vraiment une discrimination qui est comparable de ce point de vue-là, bien sûr.
Peut-être en écho à ce que vous disiez, pour prolonger la question, on l'a tous en tête, c'est les jeunes de banlieue qui ont parfois une capacité à effectivement être dans une manière de s'exprimer très, très marquée de ce point de vue-là, quand ils sont en groupe, un marqueur identitaire, et puis dès qu'ils sont finalement dans un contexte soit d'enseignement, soit d'emploi, etc., vont adopter des codes, les codes qu'on attend d'eux d'une certaine manière.
Mais ce qui prouve qu'il n'y a pas de raison de les considérer comme un groupe à part. Il n'y a pas les jeunes de banlieue qui ne seraient pas comme les autres. C'est des groupes humains qui ont à la fois des marqueurs d'appartenance à ce groupe, et les humains ont toujours des marqueurs linguistiques d'appartenance. Dès qu'un groupe humain se constitue et se stabilise, il développe des formes linguistiques spécifiques qui emblématisent l'appartenance à ce groupe. Alors là, ça va être un groupe générationnel, éventuellement social, socio-économique ou socio-culturel, mais ça a toujours existé, ça existera toujours. Et évidemment, évidemment, quand ils sont dans d'autres situations, ils n'ont plus besoin d'arborer cet emblème, ils vont en arborer un autre, ou ils vont s'adapter à la situation, ou comme je le disais tout à l'heure, à l'inverse, jouer la stratégie de continuer à dire, mais je parle comme ça, ce qu'on appelle le retournement du stigmate, hein, vous nous marginalisez, on est les jeunes de banlieue d'origine immigrée, et vous dites qu'on parle mal, et ben oui, effectivement, on parle comme ça, puis on va continuer pour vous montrer qui on est. Ça peut être aussi une stratégie d'affirmation, mais finalement, ils font ce qu'on fait tous. Ni plus ni moins.
Avec leurs armes. Christian.
Oui, c'est ça. La question de la langue, c'est bien la question de l'identité. Avec toujours en tête quand même que les identités, elles peuvent être reçues, héritées, etc. Mais elles sont aussi construites au fil de la vie des individus. Donc, voilà. De ce point de vue-là, il y a une grande différence entre l'exemple, effectivement, de la personne qui, parlant un accent lié à sa langue de naissance, se trouve violemment rappelé à une espèce d'ordre linguistique épouvantable, et on est tous d'accord là-dessus, voilà, parce qu'elle a tout simplement parlé, voilà, point, sans faire un choix autre que son propre naturel, et puis la personne qui va stratégiquement, dans des situations très précises, anticiper des réactions en choisissant, par exemple, d'assumer une identité dont elle sait qu'elle est...
Mal perçu, bien sûr. Mais oui, bien sûr, mais en même temps, il est légitime dans certaines situations d'affirmer une identité, y compris si elle est mal perçue, parce qu'on peut considérer que justement la perception négative est abusive, et donc on refuse de s'y soumettre et on affirme quand même cette identité-là.
C'est le rapport de force linguistique ou sociolinguistique.
Qui est le rapport de force sociale en général, ouais. Qui prend ici une forme sociolinguistique. Oui.
Et alors, puisqu'on est quand même depuis le début sur l'idée que les institutions jouent un rôle essentiel, on a beaucoup parlé de l'école, du droit, etc. Est-ce que les choses bougent dans le contexte scolaire? Parce qu'on insiste quand même beaucoup sur le fait que l'école est moins... Enfin, l'école n'est plus tout à fait celle de Bourdieu et Passeron. Enfin, les logiques de reproduction sont moins mécaniques, moins aveugle sur elle-même, je dirais.
J'aimerais que ça soit vrai, soyons optimistes et espérons que ça soit vrai. En même temps, pas mal d'études que j'ai lues encore récemment montrent que l'école reste un lieu à la fois de renforcement des inégalités, non seulement elle les réduisent pas, mais en plus elle les renforce, qui produisent des inégalités en plus des autres inégalités sociales, que ça reste aussi des lieux de discrimination, hein, notamment pour aujourd'hui bien davantage les élèves dont les familles sont issues d'une immigration visible, mais ça reste encore vrai par exemple pour les élèves qui sont issus du monde rural en France, qui est fortement stigmatisé, y compris dans ses pratiques linguistiques, hein. Et en tout cas, pour ce que je connais moi, c'est les questions de langue, ça n'a pas bougé du tout, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même utilisation de normes linguistiques imposées aux élèves, avec du mépris pour ce qu'ils parlent par ailleurs dans le reste de leur vie, y compris leur façon de parler le français en famille ou d'autres langues familiales, avec même des tentatives de leur interdire d'utiliser ces langues-là. J'ai donné dans mon livre des exemples, par exemple, de règlements d'école qui, de façon tout à fait illégale et abusive, interdisent aux élèves d'utiliser une autre langue que le français dans la cour, par exemple, hein, ou d'enseignants qui disent aux parents, arrêtez de parler votre langue et parlez français à vos enfants. Donc c'est encore vraiment très très fréquent ces comportements-là.
Vous prenez l'exemple terrible du petit Ahmed à qui on dit ici le H ne se prononce
oui, là,
pas en diamètre.
Oui, là c'est pire que tout, parce que non seulement on lui interdit de parler sa langue, mais on lui interdit de prononcer son prénom,
son propre prénom,
il le prononce dans sa langue et comme ses parents lui ont appris le prononcer. C'est-à-dire on touche à la fois à sa langue, à sa famille et à qui il est lui-même, parce qu'on veut l'obliger à franciser la prononciation de son prénom. Voilà. Donc ça c'est terrible, bien sûr. Et ça n'a pas beaucoup bougé à l'école encore aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des exercices de prononciation. Donc nous avons plusieurs techniques pour nous préparer à dire un texte correctement. En premier temps, nous pouvons essayer de détendre toute la partie autour de la bouche en faisant des petits exercices comme ceci.
Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, hein, Philippe Blanchet, « Discrimination, combattre la glottophobie ». Depuis sa parution au début de l'année, quelles ont été les réactions qui vous sont parvenues? Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, contribué à libérer la parole sur cette discrimination que vous entendez à la fois dénoncer pour mieux la combattre? Est-ce qu'il y a des témoignages qui sont spontanément venus vers vous? Est-ce que votre manière d'enquêter se trouve soudain enrichie de belles manières et de belles matières?
Oui, absolument. Parlant. Alors, d'abord, une des choses qui m'a vraiment étonné, je ne m'attendais pas à ça, ça a été la réception médiatique de l'ouvrage, qui a vraiment, enfin, au dire de mon éditeur, qui est un professionnel et qui en a l'habitude, dépassé toutes les...
Éditions textuelles, on le rappelle, dans textuelle, la collection ouais. Petite encyclopédie critique.
Voilà, que dirigeait à l'époque Philippe Corcuff. Mon éditeur, qui en a l'habitude, m'a dit qu'ils étaient vraiment très, très étonnés que les échos médiatiques soient non seulement si nombreux, mais autant sur la durée. C'est-à-dire que le livre est sorti...
Bah, la preuve, vous voyez, on est voilà, en
novembre, le livre
on
est
en parle
sorti
encore.
Le 13 janvier, on en parle encore. Alors, bon, là, on est à Canal B. Ce matin est paru le magazine de Rennes, il y a un article là-dessus. La semaine dernière est paru le magazine mensuel Breton, il y avait un article dessus. Enfin, ça continue en permanence. Donc, je pense que ça a touché à quelque chose qui était là, qui était hypersensible et en grande partie caché ou refoulé à cause, justement, de cette hégémonie qui fait qu'il ne faut pas le remettre en cause.
Certains vous ont dit merci dénoncer cela.
Et oui, j'ai reçu plein de mails, parce que mon mail est facile à trouver, il est sur le site de l'université, de mails de gens qui m'ont écrit vraiment pour me remercier en disant vous m'avez donné l'occasion de mettre un mot et donc d'identifier, hein, vous savez, nommer c'est faire exister, hein, et donc de prendre conscience d'un phénomène que je vivais mal mais je ne savais pas comment l'identifier. Et puis les gens m'envoient énormément effectivement du coup de témoignages. Alors il y a des radios qui ont organisé ça, qui m'ont demandé de passer à la radio et puis de faire des appels aux auditeurs. Donc il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu, alors que ça soit des gens de région de France ou des gens qui parlent une langue régionale de France, ou que ça soit des étrangers qui vivent en France et qui parlent français avec, par exemple, j'ai un exemple, quelqu'un qui m'a écrit, qui est un Français qui vit en France depuis longtemps, qui est écossais et qui parle français avec un accent écossais anglophone et qui continue à subir des moqueries au bout de 20 ans. Donc les gens m'envoient et vraiment spontanément plein de témoignages.
Vous allez en faire un bouquin, j'en suis sûr.
Oui, alors bien oui, effectivement, le but c'est de faire un recueil de témoignages pour donner encore plus la parole aux gens que ce que le bouquin, qui a quand même aussi par ailleurs une prétention, enfin en tout cas un projet d'explication un peu théorique, et voilà, hein. Donc vraiment donner la parole pour montrer l'ampleur et puis la violence de cette souffrance. Vraiment les gens parfois disent des mots qui sont extrêmement sensibles, et moi quand j'ai fait des entretiens avec les personnes avant, mais je continue à en faire, il m'est arrivé, je l'ai dit souvent d'ailleurs, que les gens se mettent à pleurer brutalement, ils s'effondrent en larmes quand ils racontent ce qu'ils ont vécu, voilà, sur ces questions-là.
Vous l'avez dit, vous touchez à l'humanité, vous touchez à l'identité, forcément ce sont des matières hautement sensibles.
Absolument.
Christian Lebart.
Et alors du coup forcément ça pose la question des outils qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre cette discrimination. On peut répondre que le livre est à lui-même un outil, parce qu'à partir du moment où on est dans une situation d'hégémonie, moi qui sans le savoir avant de l'avoir lu utilisais probablement de façon inconsciente cette grille de lecture des gens pour discriminer sans le savoir, en considérant que les gens qui avaient l'accent du sud n'étaient pas très sérieux, etc., et qu'on n'allait pas avoir Fernandel comme collègue, etc. Désormais, vous ayant lu, je sais ce qu'il ne faut plus faire. Bon, au-delà de ça, est-ce que on peut considérer que le livre va un peu faire réfléchir, ou est-ce qu'il y a aussi des pistes plus politique publique, disons?
Oui, je pense. Alors que le livre fasse réfléchir, j'ai l'impression que oui, après c'est pas trop à moi de le dire, hein, mais j'ai l'impression que oui, quand je vois les réactions, y compris les textes dans les médias, il y a parfois des textes longs, hein, sur cette question-là.
Mais institutionnel, c'est bien.
Alors c'est vrai que le problème de l'hégémonie, c'est qu'il faut la fissurer, il faut montrer qu'il y a une alternative, donc c'est important de développer une alternative, et notamment tous les échos dans les médias servent à développer une alternative. Alors institutionnel, j'ai reçu un courrier du défenseur des droits, hein, qui m'a dit qu'il avait été très sensible à cet ouvrage, et que, comme c'est Jacques Toubon, lui-même l'auteur d'une loi portant sur la politique linguistique de la France qui est parue en 1994, il m'a dit qu'il était particulièrement sensible à la question et qu'il allait y réfléchir. Donc, ma foi, l'une des choses que j'espère, c'est que on modifie une quatrième fois la loi d'interdiction des discriminations en France, qui date de 2001 dans sa première version, pour y ajouter le critère des discriminations linguistiques, que du coup on pourrait poursuivre au pénal, comme on peut poursuivre les 21 autres critères. Il faut oublier qu'il y a quand même 21 critères qui sont considérés comme discriminants, et donc qu'on ne peut pas utiliser. C'est interdit de les utiliser pour traiter les gens de façon différente. Donc il y a quelque chose en termes de politique, au sens macro-sociologique. Il faut agir au niveau global de la collectivité. Il faudrait agir dans l'éducation. Et là, il y a un chantier énorme pour former les enseignants à ne pas produire ni de la glottophobie ni de l'insécurité linguistique, mais au contraire à éduquer à l'hospitalité linguistique. Et puis moi, je dis aussi, et c'est d'ailleurs le cinquième et dernier chapitre de mon livre, il est centré là-dessus, je dis aussi, on a chacun d'entre nous au quotidien, alors comme vous venez de le dire, une mission de d'acteur que nous on appelle glottopolitique, hein, qui consiste à ne plus se comporter de façon glottophobe et au contraire à essayer de dénoncer la glottophobie partout où on peut, en faisant réfléchir les gens sur mais finalement qu'est-ce que ça peut bien faire que la personne parle comme ça, c'est pas normal, voilà. Et donc du coup des pistes s'ouvrent ici ou là et qu'on essaye de traiter le problème à la fois par le haut, au sens par le macro, par l'institutionnel, par le politique, et puis par le bas, c'est-à-dire au sens du terrain quotidien, que chacun d'entre nous essaye de transformer ses comportements. C'est un peu comme ça qu'on a réduit les comportements xénophobes, en tout cas qu'on les avait réduits pendant quelques décennies. On peut imaginer qu'on réduise aussi les comportements glottophobes.
Philippe Blanchet, on rentre dans une période très riche sur le plan politique, avec des perspectives électorales qui ne vous ont évidemment pas échappé. Est-ce que votre sujet de prédilection, donc cette glottophobie, ce combat contre cette discrimination pourrait s'inviter dans le débat politique? Est-ce que vous pensez que d'une manière ou d'une autre ça pourrait faire l'objet d'une ligne de fracture? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une opposition politique? Est-ce que le clivage traditionnel gauche-droite s'applique là-dessus ou ça n'a vraiment rien à voir?
Globalement il s'applique parce que ça dépend ce qu'on appelle la gauche et la droite. Si on considère encore le Parti Socialiste comme un parti de gauche, on peut considérer que aussi bien à gauche comme à droite il y a une conception de l'État-nation avec son unicité notamment linguistique qui fait un consensus, et du coup il est très difficile d'arriver là-dedans et de dire bah oui mais vous savez votre consensus finalement c'est un consensus de type nationaliste avec une atteinte aux droits de l'homme. Et donc, il faudrait peut-être revoir la conception même qu'on a de ce que c'est que la nation française pour laisser de la place à l'hétérogénéité linguistique et pas seulement linguistique. Par contre, il y a effectivement des partis politiques qui sont beaucoup plus sensibles aux questions des droits humains, aux questions des discriminations, aux questions d'injustice et d'inégalité. Et le seul qui, jusqu'à présent, m'est plusieurs fois contacté, c'est le nouveau parti anticapitaliste, qui m'a invité plusieurs fois à son université d'été. Et l'été dernier, à son université d'été, j'ai animé un atelier avec Olivier Besancenot, qui a sorti cette année un livre sur la manipulation par le lexique politique, et on a animé un atelier sur ces questions-là au sein d'un parti politique de gauche, donc du coup, et c'est le seul qui s'y soit intéressé pour l'instant. Bon, après, je désespère pas que d'autres aient l'oreille ouverte. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur des partis, il y ait des gens différents. Il y a par exemple aussi bien à l'intérieur du parti dit Les Républicains que du Parti Socialiste, des gens qui ont une fibre très régionaliste, des défenseurs des langues régionales et des gens qui sont totalement jacobins. Donc on peut imaginer aussi que dans différents partis, il y a des gens qui s'ouvrent à ça.
Et est-ce qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui peuvent utiliser finalement une singularité de prononciation comme un marqueur différentiel ou en tout cas un moyen de se faire remarquer un petit peu dans la masse, notamment médiatique? Est-ce qu'on a assisté à ça?
Oui, il y en a et ils sont bien connus, y compris ils ont été interviewés là-dessus, mais c'est des gens qui ont toujours dit que ils n'avaient pas d'ambition nationale et qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'ambition nationale. Bon, il y a des interviews par exemple de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, qui est réputé pour son accent marseillais et par le fait qu'il parle provençal et qu'il le fait publiquement, mais qui a toujours dit moi mon objectif c'était d'être maire de Marseille, donc voilà, si j'avais voulu être président de la République, c'est évident qu'on ne peut pas être président de la République française en ayant un accent autre qu'un accent standard, c'est-à-dire bourgeois parisien pour être clair, hein, voilà. Alors vous avez, parlant du NPA, Philippe Poutou qui est du Sud-Ouest, il est bordelais, qui est ouvrier, donc en plus milieu social populaire, etc., lui il parle son français à lui, évidemment, et c'est cohérent avec ce qu'il cherche à représenter, mais lui aussi est marginalisé, y compris, et pas seulement, mais y compris pour cette raison-là.
Alors, Frédéric Mistral lui a répondu « Si on pas républicain, il est où qu'il y écrit le tambour d'Arcole, erre républicain avant que te nassigesse, et Bessa, il nous sera encore sénateur, quand te nous sera pleu. »
Jean-Claude Gaudin prend un malin plaisir à être l'un des rares candidats à pouvoir citer Frédéric Mistral en provençal, une façon de rappeler qu'il est né à Mazargues et qu'il connaît la région de l'intérieur, que cela fait presque partie de ses chromosomes. En plus de la région, Jean-Claude Gaudin donne l'impression de connaître tout le monde. Cela tient à une façon de dire bonjour, de tendre la main, comme s'il connaissait son interlocuteur depuis l'éternité. Référence encore à son passé, même en posant une première pierre.
Oh là là, mon père a fait ça toute sa vie, alors je l'ai quand même vu un peu faire.
Christian Lebart.
Oui, c'est vrai que quand on regarde la classe politique dans son ensemble, c'est d'une très grande homogénéité linguistique, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense à des travaux de sciences politiques aussi qui avaient quand même montré, pour nuancer ça, je suis tout à fait d'accord avec sur Gaudin, qui est vraiment un exemple très intéressant, mais qui montrait quand même que des élus doublement positionnés Paris-Province dans la grande tradition du cumul des mandats ou tout simplement du parlementaire qui revient dans sa circonscription étaient capables quand même d'adopter des identités stratégiques, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée, je parle le parisien, et quand je suis en circonscription, surtout si celle-ci est au sud de la Loire, je suis capable de, ou sans forcément que ce soit une stratégie d'ailleurs, de colorer un peu mon...
Oui, oui, ou même d'utiliser une langue régionale. Hein. Il y a de nombreux députés, y compris bretons, qui parlent breton, y compris entre eux. J'ai vu un documentaire où il y avait deux députés bretons qui parlaient breton entre eux, dans les jardins du palais de
Et on a vu un exemple fameux d'un élu à Perpignan qui, ne parlant pas le catalan, l'apprend parce qu'il sait que s'il veut faire de vieux os dans ce territoire politique-là, il faut aussi donner des signes d'appartenance. Donc voilà, je veux dire aussi que le rapport de force peut aussi s'inverser dans certains
localement, contextes. Il peut s'inverser localement, mais au niveau national, je ne vois pas bien comment il s'inverserait dans l'état actuel de la
situation.
Est-ce
que ça nuance pas aussi un peu la thèse de l'hégémonie, de montrer qu'il y a des marchés linguistiques périphériques?
Bien sûr, mais il y a toujours des gens qui résistent à l'hégémonie. Il y a toujours, la France a beau avoir mis en place un véritable rouleau compresseur en forme de politique linguistique depuis la Révolution française, avec des institutions et des moyens, y compris légaux et pénaux, extrêmement radicaux, il y a toujours des gens qui ont résisté. Il y a toujours des familles dans lesquelles on s'est transmis une langue régionale. Il y a toujours des gens qui restent attachés à leur façon de parler le français avec un accent picard ou méridional ou créole, peu importe. Il y a évidemment toujours des gens qui résistent, heureusement. L'hégémonie, elle est heureusement jamais à 100%. Simplement, tenir un discours qui va contre l'hégémonie, c'est encore plus difficile que de tenir un discours qui va contre une domination.
Alors Philippe Blanchet, nous arrivons à la fin de cette émission et j'aimerais qu'on consacre peut-être les dernières minutes dans la suite de l'échange que vous venez d'avoir avec Christian Lebart à la dimension régionale de la glottophobie et de cette difficulté, cette discrimination que vous dénoncez à juste titre. Qu'est-ce qui se passe ici en Bretagne? Est-ce que l'on peut resserrer un petit peu la focale, comme on dit au cinéma, pour regarder ce qui se passe notamment dans cette région où il y a évidemment le français, il y a le breton, il y a le gallo aussi, et le gallo, je pense que ça peut être intéressant peut-être d'y consacrer quelques instants, parce que là aussi c'est une langue qui a dû surmonter bien des contradictions et beaucoup de mépris sans doute. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Enseignant à Rennes 2, on peut penser que oui.
Oui, bien sûr. Quand on dit qu'on fait du terrain, on commence par faire du terrain de proximité. Donc... D'abord, là-bas, on travaille autant sur les langues dites régionales de Bretagne que les langues dites immigrées en Bretagne, en plus du français. La Bretagne, c'est un bon exemple, hein, finalement, parce qu'il y a à la fois l'hégémonie du français dominant, et notamment, alors, ce qui est assez frappant, surtout en Haute-Bretagne, à cause justement du rejet vraiment extrême du gallo, une adoption d'un français sans marque régionale. Hein, c'est devenu assez rare, sauf dans les campagnes, d'entendre, par exemple, à Rennes, des gens parler un français qu'on pourrait reconnaître comme local. C'est pas vrai en Basse-Bretagne, où les influences du breton restent présentes. Y compris dans la prononciation
du français. Il y a des accents toniques qui ne sont pas placés au même endroit.
C'est ça, les accents toniques, il y a la façon de prononcer les nasales. Enfin voilà, il y a des marques de régionales du contact avec le breton dans le français qu'on parle en Bretagne occidentale. Encore que ça diminue beaucoup chez les jeunes parce qu'il y a moins d'attaches identitaires à ce français-là que par exemple aux français méridionaux. Il y a une attache identitaire, elle est au breton lui-même. La situation bretonne représente aussi les hiérarchisations qu'on fait entre les langues parce que la politique linguistique française a été très méprisante à l'égard du breton et du gallo. Elle est devenue... la politique régionale a changé la donne depuis une trentaine d'années. Désormais, le breton a récupéré un statut symbolique positif, en Bretagne en tout cas, y compris en Haute-Bretagne, d'ailleurs comme langue, y compris à fonction identitaire. Hein. La région s'est rendue compte d'une erreur qu'elle avait commise en négligeant complètement le gallo pendant cette période-là, et depuis 2 ans maintenant, il y a une politique régionale de soutien au gallo. Je termine moi-même là, avec mon labo, une enquête à la demande du conseil régional sur la promotion du gallo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir le gallo? Vous savez que la région a désormais une politique linguistique trilingue, les affichages sont trilingues, désormais à l'hôtel de région et dans les locaux qui en dépendent, alors que c'était bilingue jusqu'ici. Donc voilà, mais cela dit, rattraper la situation du gallo après le passage du rouleau compresseur français et même du breton d'ailleurs, il faudrait une puissance terrible que les régions juridiquement ont pas en France, hein, clairement. Et puis il y a aussi, par exemple, la place des langues immigrées, qui représente bien aussi les mêmes situations. Bon, la première communauté étrangère vivant en Bretagne, c'est les Britanniques. surtout au centre-Bretagne. Il est frappant de voir, et j'ai une doctorante, maintenant docteur, qui a fait sa thèse là-dessus récemment, frappant de voir à quel point l'usage de l'anglais au centre-Bretagne est légitime. Alors que si c'était des migrants marocains, comme ils sont par exemple beaucoup plus nombreux en Ille-et-Vilaine, l'usage de l'arabe marocain serait considéré comme illégitime. Et là encore, traitement différentiel et donc discrimination. Voilà, si vous êtes immigré anglais et que vous parlez anglais, il n'y a pas de problème. Si vous êtes immigré marocain et que vous parlez arabe, il y a problème. Voilà. Donc on voit bien qu'on reproduit dans cette région, au fond, les dynamiques sociolinguistiques qu'on voit ailleurs dans le reste de la France, avec juste cette différence notable quand même du retournement du statut du breton.
Est-ce que vous avez noté une plus grande tolérance ou finalement pas davantage et la même discrimination qu'ailleurs en France, ici en Bretagne, ou est-ce que le côté tempéré que l'on prête parfois aux Bretons, y compris dans leurs inclinations politiques, se traduit aussi par une plus grande acceptation des différences ?
Je le dirais avec un autre mot, je pense qu'il y a une forme de sociabilité en Bretagne qui est particulière et qui rend les relations sociales plus faciles. Et notamment, il y a beaucoup moins d'haltérophobie en Bretagne que dans d'autres régions de France. Après, on peut pas non plus généraliser. Il n'y a pas la Bretagne et le reste de la France. Il y a des tas de cas d'espèces. Il y a manifestement une capacité d'accueil et d'inclusion, d'hospitalité, on va dire, en Bretagne qui est encore très vivante. Et c'est une heureuse chose, aussi bien pour les Français comme moi qui viennent d'une autre région que pour les gens qui viennent d'autres pays. Et donc, il y a moins de stigmatisation tendanciellement que dans d'autres régions de France, clairement, oui.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une dernière question avec vous, Christian Lebarthe.
Une question qui est peut-être pas seulement anecdotique. Je pense à la relation entre Rennes et Brest et à les moqueries dont font souvent l'objet les Brestois, le fameux accent brestois vu de Rennes, qui me semble toujours vu de Rennes, quoi.
Oui, oui.
Qu'en est-il ?
C'est une des réalisations du système d'hégémonie et du système de hiérarchisation linguistique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'accent brestois, c'est au fond la façon de parler le français qu'ont en gros les Finistériens. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques partout. Ils vont dire de suite pour dire de suite, etc. C'est lié au contact avec le breton. Et comme à Rennes, on n'a pas le contact avec le breton et qu'on a au contraire en tant que capitale, que ville bourgeoise, que ville du pouvoir, un rapport au français dominant et qu'on pratique un français qui est très proche du français standard, eh bien on reproduit à l'échelle régionale la domination que les Parisiens reproduisent par rapport aux Bretons en général.
Mais dans cet exemple-là, comme dans les autres, la relation entre les accents ou entre les langues ne fait que refléter un rapport de force entre groupes, entre territoires et entre classes sociales.
Oui, de toute façon, enfin, l'idée d'une sociolinguistique, c'est non seulement l'idée d'étudier les langues comme des pratiques sociales, mais c'est d'étudier les sociétés à partir de leur facette linguistique. Et ce que nous montre cette étude-là, c'est effectivement toutes les relations de force, de discrimination, de domination, d'hégémonie qu'il y a dans les sociétés, y compris dans la société française et aussi dans la société bretonne.
Alors, Philippe Blanchet, il nous reste 30 secondes. Ma dernière question, sur quoi allez-vous porter l'accent dans les prochains mois pour vos travaux ?
Eh bien, mon intention immédiate, j'ai deux chantiers en cours. En ce moment, je travaille pas mal sur les mots circulant dans le domaine politique et médiatique et la façon dont on manipule les gens avec ce lexique.
Les éléments de langage, ouais, la langue.
Laïcité, communautarisme, radicalisation, etc. J'ai publié un certain nombre de choses là-dessus. Et puis, on continue à travailler sur les discriminations, puisque je vous disais, je vais faire un livre de témoignages, mais je vais aussi, probablement à la demande de beaucoup de gens qui se sont adressés à moi, faire une version plus grand public à partir plutôt de mes interventions dans les médias de cet ouvrage qui malgré
la
tout...
La glottophobie expliquée pour les nuls, c'est ça ?
Alors pas pour les nuls parce que je pense que les gens sont pas des nuls, mais la glottophobie plus accessible que dans une petite encyclopédie critique d'un éditeur de sciences humaines et sociales.
Eh bien nous suivrons ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt, vous reviendrez peut-être nous en parler à ce micro. Merci beaucoup Philippe Blanchet d'avoir répondu à nos questions, Christian Lebarthe et moi-même. À très bientôt pour Chercheurs en Ville.